Un journal de la vie de ce vieux serviteur du Christ, John Gratton, 1641-1711. Beaucoup iront çà et là, et la connaissance augmentera. Et ceux qui seront sages brilleront comme la splendeur du firmament. Et ceux qui en auront amené beaucoup à la justice, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Dan 12, 3-4. Le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué, pour un renvoi aux écritures ou un détail dans les écrits. Préface de l'éditeur du site John Gratton, 1641-1711, fut un Quick des débuts qui n'avait jamais entendu aucun des géants du mouvement. Il fut convaincu par la parole, voix du Seigneur et par la lumière de la vraie voix. En cherchant la vérité, il découvrit l'hypocrisie des puritains congrégationalistes, des presbytériens, des épiscopaliens et des baptistes. Il avait une grande connaissance de la Bible et avait été abondamment instruit par le Seigneur. Il supplia Dieu de le conduire vers un véritable groupe de croyants. Les Quakers étaient alors fortement méprisés par la plupart, et lorsqu'il leur rendit visite, au début lui aussi les rejeta. Continuant à supplier le Seigneur de lui montrer le vrai peuple de Dieu, il dut être persuadé par la voix du Seigneur que les Quakers, malgré leur mauvaise réputation auprès de la population générale de la région, étaient véritablement le peuple de Dieu. Il se joignit donc à eux, pour sa grande joie, et pour l'achèvement de son voyage vers le royaume des cieux. En peu de temps, il devint un ministre itinérant, convainquant astérisque des centaines de la vérité, qui ensuite commencèrent à travailler à leur salut en vue d'une expérience ultérieure. Il parlait et écrivait avec simplicité, avec de grandes preuves scripturaires, une logique claire et une grande puissance. Il parlait avec une telle puissance que les agents chargés de l'arrêter rebroussaient souvent chemin ou se taisaient, attentifs, au lieu de persécuter. Mais comme des milliers d'autres Quakers des débuts, il fut lapidé, battu et emprisonné pour son ministère, pour n'avoir pas assisté aux offices approuvés par l'État et pour avoir assisté aux réunions des Quakers. Car tous ceux qui sont résolus à vivre pieusement en Christ Jésus souffriront persécution, 2 Tim 3, 12. Malgré sa longue détention, son épouse Quake, dévouée, poursuivit son métier, procurant un revenu à leur famille, avec la bénédiction du Seigneur. Astérisque, être convaincu signifie être devenu certain de l'avoir requise pour le salut, non pas recevoir le salut lui-même. Presque tous ces nouveaux convaincus avaient auparavant été de pieux lecteurs de la Bible, professaient que Jésus était le Fils de Dieu, avaient été baptisés, assistaient aux offices des sectes, etc. Mais ils étaient tous encore captifs du péché et savaient qu'il devait exister un moyen d'être libérés même du désir de péché. Lorsqu'ils entendirent proclamer la voie pour devenir purs, pour être libérés du péché, leur cœur rendit témoignage à cette vérité. Ils se joignirent donc à d'autres qui cherchaient à être libérés du péché, en attendant en silence d'entendre le Maître au-dedans pour lui obéir, et pour recevoir sa grâce transformante qui leur apprenait à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et comment vivre alors dans leur monde d'une manière sobre, juste et pieuse, être racheté de toute iniquité et purifié et ensuite avoir un zèle pour les bonnes. Ce processus de la conviction à la pureté exigeait qu'ils continuent à travailler à leur salut au fil du temps avec crainte et tremblement. Parce qu'ils tremblaient en présence de l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans leur cœur, leur montrant leurs péchés, les convainquant des secrets de leur cœur, ils tremblaient aux Quakers, c'est ainsi qu'ils devinrent connus sous le nom de Quakers. La source de ce texte est Friend Library, volume X, 1845. J'ai modernisé la langue et réécrit certaines phrases afin de refléter la grammaire et l'usage des mots actuels, en utilisant un dictionnaire de 1828 pour remplacer les mots obsolètes, mais je n'ai en rien changé le sens. John Gratton apporte une perspective nouvelle sur les questions défendues dans ses pages web par d'autres Quakers des débuts. John était l'un des véritables dignes du Seigneur, et son récit nous offre l'espérance et l'inspiration pour poursuivre notre pèlerinage vers l'union avec Dieu et le Christ dans le royaume des cieux, par la croix intérieure du renoncement à soi. Témoignage de John Whiting concernant John Gratton. L'amour de la précieuse vérité que j'ai reçue dans mes premières années, et embrassée comme ma plus grande joie, et qui m'est plus chère que tout ce que ce monde peut offrir, m'a fait aimer ses messagers et ses ministres, ainsi que leurs témoignages à cause d'elle. Notre cher ami, John Gratton, n'était pas le moindre d'entre eux, étant l'un des dignes du Seigneur, suscité en ses derniers jours, après un long travail, et envoyé pour publier les bonnes nouvelles de l'Évangile du Christ à ses voisins et compatriotes, comme le fera apparaître le récit qui suit. Il fut un véritable ministre de l'Évangile éternel de vie et de salut aux fils et aux filles des hommes, en vie et en puissance, ce qui est en effet une bonne nouvelle pour tous ceux qui la reçoivent. Mais à présent il a été ôté et retiré d'entre nous, et il est allé à son repos éternel, et ses œuvres le suivent. Le fait que tant de dignes du Seigneur aient été retirés d'entre nous ces dernières années est un sujet de grave considération, qui a souvent profondément touché mon cœur. Mais je trouve consolation en ceci, nous ne sommes pas laissés démunis, et l'œuvre est celle du Seigneur, et bien qu'il soit ôté, il peut en susciter d'autres à leur place. Et ceux qui sont morts dans le Seigneur, et si nous sommes fidèles, nous irons vers eux, puisqu'ils ne peuvent revenir vers nous, là où nous vivrons à jamais pour célébrer et louer le nom du Seigneur. En attendant, prions le Seigneur de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers fidèles dans sa vigne, pour combler les places de ceux qui ont été retirés. Car la moisson est en vérité grande, et beaucoup de travail reste à accomplir avant que les nations ne soient converties à lui. Et les vrais ouvriers, en comparaison de l'ampleur de l'œuvre, sont encore peu nombreux. Je n'aurais pas présumé écrire quoi que ce soit concernant notre ami défunt, considérant combien il s'en trouve de plus capable pour parler de lui, si je n'avais eu pour lui plus qu'un respect ordinaire, à cause de son témoignage, et si je n'avais été de ses intimes connaissances pendant environ 20 ans. Je connaissais bien son tempérament et son esprit, et si ce n'était pour donner quelques comptes rendus du journal qui suit, et de ma part dans celui-ci qui est la suivante, notre ami John Gratton, dont le service dans la vérité et les travaux dans l'œuvre du Seigneur sont, je n'en doute pas encore frais dans la mémoire de beaucoup, qui se réjouiront d'entendre son histoire, laissa en plusieurs manuscrits un récit de sa vie, de ses travaux, de ses voyages et de ses souffrances, lesquels, ayant été envoyés à Londres après son décès, me furent. Je le fis soigneusement, et j'en rassemblai la substance en un seul ensemble, selon l'ordre du temps, autant que je le pus avec ses propres mots, sans omettre quoi que ce soit d'important. Que le Seigneur le rende utile à tous ceux qui le liront, afin que cela tourne à sa gloire, à l'avancement de sa vérité et à la consolation de son peuple. Il mourut au premier mois de 1711, mars 1711. Et précieux aux yeux du Seigneur est la mort de ses saints, à la grâce divine et à la direction desquels je recommande tous, ainsi que mon âme. John Whiting, Londres, le 20 du 12e mois, 1719. D'autres témoignages concernant la vie de John Gratton se trouvent à la fin du journal et des lettres. Journal de la vie de John Gratton, par John Gratton, car Dieu ne fait point exception de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Acte 10, 34-35. Il m'est souvent venu au cœur d'écrire un court récit, à laisser après moi, des gracieuses manières d'agir du Seigneur envers moi, et des grandes miséricordes que, dans son amour infini, il m'a librement accordées, bien au-delà de mes mérites ou de mes attentes, pour ma grande joie et consolation. Louange, action de grâce, gloire, honneur et renommée lui soient données et attribuées, car lui seul est digne, Dieu au-dessus de tous, béni éternellement. Amen. Afin que mes enfants et d'autres, qui pourront lire ces lignes, soient encouragés à se confier dans le Dieu vivant, à se décharger sur lui de leurs soucis, et à lui obéir véritablement, car il ne fait jamais défaut à ceux qui mettent leur confiance en lui et demeurent dans son bienheureux conseil. Lorsqu'il plut pour la première fois au Seigneur de me visiter et de faire briller sa lumière en moi, qui est maintenant ma vie, je n'étais qu'un enfant, gardant les brebis de mon père, et j'étais enclin au péché et à la vanité, pourquoi je fus repris et frappé intérieurement. Il me fut rendu manifeste que je n'étais pas en état de salut, et que je n'avais aucune vraie paix dans mon esprit. Mais chaque fois que je venais à considérer sérieusement ma condition, je trouvais près de moi un accusateur. Je trouvais aussi que celui qui me reprenait pour le péché et me montrait la tromperie de mon cœur me conseillait également d'embrasser la vérité et la justice, et qu'il était toujours avec moi pour m'instruire et me guider dans la voie de la sainteté, et me recommandait de ne plus pécher ni en parole ni en acte, mais de toujours dire la vérité. Lorsque je suivais son conseil et son avis, alors j'étais en paix, mon fardeau semblait s'alléger, et cela m'encourageait à persévérer et à prendre garde à ce bon esprit en moi, qui m'instruisait ainsi à la piété et à fuir le mal. Je trouvais, pour ainsi dire, deux esprits à l'œuvre en moi, s'efforçant tous deux de me dominer, s'opposant l'un à l'autre, mais je trouvais que le bon esprit, car c'en était un, me conseillait toujours de faire le bien, et lorsque je lui obéissais, je constatais que le mauvais esprit ne pouvait pas troubler ma paix. Si j'étais demeuré là et avais toujours vécu dans le conseil de ce bon esprit d'instruction, sans me rebeller contre lui, alors ma paix aurait été comme un fleuve. J'avais environ 10 ou 11 ans lorsque le Seigneur me visita par la lumière de son Fils, et me donna de voir la vie vaine et la conduite dans lesquelles je vivais, étant fort porté à jouer parmi les garçons grossiers, prenant grand plaisir à jouer aux cartes, aux tirs à l'arc sur cible, et à sonner les cloches, pourquoi je fus repris. Je vins à voir que les divertissements et plaisirs vains déplaisaient au Seigneur, auquel j'étais enclin, avant d'en venir à connaître véritablement la parole de Dieu dans mon cœur et dans ma bouche pour l'entendre et la faire. Et j'en étais jugé en moi-même, mais je ne connaissais pas le juge, car je n'étais qu'un enfant. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, ni ne pensais que c'était lui qui m'avait rencontré dans mon cœur et ma conscience, et qui m'avait dit tout ce que j'avais fait, rendant manifeste toutes les choses qui étaient reprises, bien que j'eusse lu dans les Écritures que le Christ était venu pour racheter d'une vaine conduite, afin de servir le Dieu vivant. Et le Christ enseigna à prier, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et dis, je ne suis pas venu faire ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et non pas ma volonté mais la tienne lorsqu'il devait boire cette coupe amère de la croix. Et celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. Ainsi la coupe qu'il devait boire et le baptême dont il devait être baptisé, eux aussi devaient en boire et en être baptisés. Oh, cela dépasse les mots, et la profondeur de la sagesse de l'homme ne peut l'atteindre, et pourtant nous devons en boire et être baptisés de son baptême. C'est lui qui apparut en moi lorsque j'étais jeune, bien que je ne le connusse pas, et que je suivisse des prêtres mercenaires, des presbytériens, etc. Néanmoins je n'étais à l'aise parmi aucun d'eux. Quand je vis que je ne vivais pas comme je le devais, une crainte s'empara de moi, je m'assis par terre, et je devins très sérieux, et je pensais vivre avec plus de prudence et de sainteté à l'avenir. Et lorsque cette disposition fut engendrée en moi, je sentis et vis la grâce de Dieu apparaître en moi, mais je ne savais pas encore ce que c'était. J'aurais volontiers voulu la retenir et en conserver la jouissance, mais je ne le fis pas, car étant jeune, mon esprit s'en alla de nouveau vers des sports vains et enfantins, et des divertissements pécheurs et insensés, lorsque je rencontrais mes compagnons me divertissant des choses terrestres, et ainsi je tombai du conseil du céleste et perdis le sens, la vue et le sentiment de celui-ci, de sorte que le trouble et la tristesse d'esprit vinrent sur moi. Je vécus ainsi 5 ou 6 ans, et à mesure que je grandissais, cela augmentait en moi. Pourtant je trouvais souvent le moniteur céleste me conseiller, qui tantôt me reprenait vivement, tantôt m'instruisait doucement. Enfin il m'ouvrit clairement mon cœur, brisa ma paix, fit saisir sur moi ses terreurs, et je fus blessé au cœur, grande fut ma tristesse, et mes larmes furent nombreuses, et je ne savais que faire. Pourtant dans cet état de tristesse, j'avais parfois une espérance secrète, et cela m'empêchait de sombrer sous le grand poids qui pesait sur moi. Cela me donna le courage de prier Dieu, bien que je ne sache pas comment prier. Mais je pensais qu'en secret, là où personne ne pouvait m'entendre ni me voir, je pourrais le mieux prier, confesser ses péchés, demander pardon et demander la force de les vaincre, les péchés que je ne voulais pas que les hommes connaissent. Mais je ne trouvais toujours pas la force d'abandonner les péchés auxquels j'étais si enclin, parce que je ne recevais pas celui à qui tout pouvoir a été donné, et que je ne le connaissais pas non plus. Je ne pensais guère que c'était lui qui m'avait dit tout ce que j'avais fait, et qui avait mis au jour tous mes péchés secrets. Rien ne lui était caché, car il discernait les pensées même et les intentions de mon cœur. J'étais comme mis à nu devant lui, et je ne pouvais rien lui cacher. Pourtant son apparition me semblait une chose si pauvre, basse et méprisée, que je n'y croyais pas, et ne pensais pas avoir trouvé le Christ en moi, mais le cherchais, ou le supposais, au ciel, au-dessus des cieux. Et bien qu'il m'apparût merveilleusement par son esprit, je ne le connaissais pas, je rejetais encore son conseil et ne venais pas à lui pour être instruit par lui. Bien qu'il eût longtemps attendu pour me faire grâce, gloire à son nom à jamais, car il me rendit manifeste beaucoup de choses, grand fut le travail de ma pauvre âme. Toutes les choses extérieures me semblaient parfois de peu de valeur, et je criais au Seigneur qu'il me dise ce qu'il voulait que je fasse, et qu'il me montre qui était son peuple, qu'il adorait correctement selon sa volonté. Je lisais beaucoup, je conférais avec beaucoup sur la religion, et j'allais çà et là pour entendre ceux qui passaient pour de grands prédicateurs, mais je négligeais le grand maître dans mon propre cœur. J'estimais les prêtres alors en place, au temps d'Olivier Cromwell, et j'allais constamment les entendre, mais je rentrais souvent chez moi plein de tristesse, car je n'étais pas satisfait de leur doctrine de l'élection et de la réprobation, qui me plongeait dans une profonde détresse, et parfois j'étais tout près de conclure que j'étais un réprouvé, mon état paraissant être un état de péché. Pourtant je croyais que les hommes qui sont en Christ sont élus, mais que les hommes hors de Christ sont hors de la voie vers Dieu. Car Christ est l'élu et le choisi de Dieu, l'héritier de toutes choses, et tous ceux qui sont en lui sont cohéritiers avec lui. Si Christ est à eux, alors tout est à eux, et Christ est tout en tout pour ceux en qui il vit et règne. Mais si Christ n'est pas en eux, ils sont réprouvés sans Dieu dans le monde, morts dans les péchés et les offenses, et tout ce qu'ils font n'est que des œuvres mortes, des prières mortes, une prédication morte, un culte mort et des pratiques mortes. Et beaucoup cherchent le vivant parmi les morts, et parmi des ordonnances mortes, des fois mortes, des observances mortes et des professions mortes. Mes chagrins augmentaient, pourtant je m'efforçais beaucoup d'obtenir du soulagement, je lisais beaucoup, je priais beaucoup en secret, et j'allais entendre des sermons avec une grande ardeur. J'étais alors devenu membre de l'église presbytérienne, et j'avais beaucoup fréquenté les leurs, et je leur avais confié une partie de mon état. Mais hélas, hélas! Ils ne pouvaient pas m'aider, non, ni eux-mêmes non plus. Mais il me disait que c'était un bon état, et que je devais être troublé par mes péchés tant que je vivrais, et que les meilleurs des enfants de Dieu avaient toujours leurs manquements. Tout cela visait à me persuader de m'asseoir satisfait avant d'avoir été nettoyé et lavé de mes péchés. Oh. C'étaient des médecins de nulle valeur, c'étaient ceux qui enduisaient de mortiers mal liés et criaient « paix, paix » alors qu'aucune paix n'était réellement éprouvée. Ainsi mes chagrins augmentèrent, et quand le peuple chantait des psaumes dans la maison au clocher, et que j'y étais, je n'osais pas chanter les mêmes paroles de David qu'eux. Cela aurait été un mensonge dans ma bouche, car je voyais que je n'étais pas dans l'état où David était, et je ne pouvais pas le chanter véritablement comme mon chant. Et si je l'avais fait, j'aurais dit ou chanté une chose fausse à mon sujet. Mes chagrins augmentaient encore nuit et jour, et mes larmes et mes craintes étaient aussi nombreuses. Parfois, je priais secrètement le Seigneur, confessais tous mes péchés, et le suppliais de me pardonner. J'employais beaucoup de mots, dont certains, peut-être, appris des prêtres, et d'autres qui étaient réels, selon mon état. Pourtant, lorsque j'avais fini, j'étais condamné et plein de tristesse. Et parfois mon esprit se trouvait plus chargé après avoir terminé qu'avant de commencer, étant condamné en moi-même de n'avoir pas prié avec foi, sans douter de rien, ni dans l'esprit de prière et de supplication, et je ne trouvais aucun repos pour ma pauvre âme. Je pleurais profondément parce que j'étais impie et injuste, bien que mes voisins aient une meilleure opinion de moi, car je voyais que mes péchés et mes offenses étaient nombreux, et je croyais les Écritures qui disaient « Rien d'impur n'entrera dans le royaume des cieux, et, sans la sainteté, nul ne verra jamais le Seigneur. » Je pleurais profondément, et j'étais prêt à penser que mon cœur n'était pas droit devant Dieu. Je priais beaucoup en privé, dans l'écurie et les granges, au lit et sur la lande élevée. Un jour, étant seul au sommet d'une colline, dans la neige, je criai à haute voix avec de grands cris vers le Seigneur, et je désirai qu'il me montre mon propre cœur. Et il plut au Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière à ce moment-là, de sorte qu'il me donna de voir mon propre cœur, et je sus que c'était le Seigneur qui me le montrait à ma satisfaction, car je vis clairement qu'il était trompeur, et non pas un bon cœur humble et pur. J'étais content de l'avoir vu et d'avoir su ce qu'il était, mais affligé qu'il fût si mauvais. Ce fut la première fois, à ma souvenance, que j'étais sûr que le Seigneur me donnait une réponse à mes prières, mais j'eus une profonde tristesse, oui, très profonde, et parfois j'étais prêt à dire, aussi je n'étais jamais né. Arrosant mon oreiller de larmes, mais il plut au Seigneur de mettre dans mon esprit d'être content et d'attendre le temps du Seigneur, pour qu'il me donne une connaissance plus approfondie de sa volonté. Pendant quelque temps, je vécus dans une grande tristesse, dans la crainte et le trouble. C'était indescriptible, de sorte que le matin, j'étais heureux que le jour soit venu, et le soir, que la nuit soit venue, et j'étais porté à penser qu'aucune condition d'homme n'avait jamais été comme la mienne. À peu près à cette époque, le roi Charles y monta sur le trône, et après quelque temps, l'uniformité religieuse fut légiférée, n'autorisant personne à prêcher dans les églises, dites-elles, à moins de se conformer à la prière commune et d'observer ces cérémonies établies par les épiscopaliens, sinon de se taire ne pas prêcher. Alors les prêtres presbytériens, que j'avais tant estimés et admirés, firent leur sermon d'adieu et nous quittèrent, car ils ne voulaient pas se conformer eux-mêmes à la prière commune astérisque et refusèrent de demeurer avec leurs troupeaux, ce qui me fit pleurer amèrement. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Mais nombre de ministres presbytériens montrèrent la dépravation de leurs convictions en devenant immédiatement ministres de l'Église d'Angleterre. Toutefois, la plupart, si honteux de leur duplicité, prirent un emploi suffisamment loin de leurs anciennes congrégations, afin de ne pas avoir à faire face à des gens qui auraient su qu'ils s'étaient vendus pour un revenu. Alors il me vint à l'esprit de sonder les Écritures, pour voir si ce que le Seigneur envoyait prêcher l'Évangile, dans la démonstration de l'Esprit, pouvait se taire sur ordre d'homme, même si ces hommes en autorité le leur avaient interdit. Et si ceux qui prétendent maintenant être ses ministres pouvaient, selon l'Écriture, être en règle en abandonnant leurs troupeaux et leurs congrégations à cause de la volonté de l'homme, oui ou non. Car je croyais que si Dieu les avait envoyés et établis, alors l'homme ne devait pas les renverser. Je trouvais aussi clairement, par les Saintes Écritures, qu'ils ne devaient pas se taire sur ordre d'homme, si le Seigneur les avait envoyés et leur avait commandé de prêcher, mais qu'il fallait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsque le Seigneur commande une chose et l'homme une autre, comme les trois enfants et Daniel aussi, qui supportèrent patiemment la colère du roi, et furent jetés dans la fournaise ardente et la fosse aux lions, ils se confièrent en Dieu, et il les délivra. Je trouvais dans Ésaïe 62, 1 que, en termes clairs, le Seigneur commandait à ceux qui font mention du Seigneur de ne pas garder le silence sur ordre d'homme. Et quand les chefs des Juifs commandèrent aux apôtres de ne plus prêcher au nom de Jésus, ils répondirent par une question, « S'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, jugez-en. Car nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons entendues et vues, et ils allèrent aussitôt au temple, et prêchèrent ou enseignèrent. » Dans le chapitre suivant, quand le Seigneur les délivra de la prison, ils retournèrent au temple et enseignèrent, et quelqu'un vint dire au chef, Voici, les hommes que vous avez mis en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Alors on les fit venir devant le conseil, et le grand prêtre dit, « Ne vous avons-nous pas expressément commandé de ne pas enseigner en ce nom ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et aussitôt en face d'eux, ils prêchèrent avec hardiesse, et ne gardèrent pas le silence ni ne fuyèrent leur témoignage, comme ces prêtres le firent en ces jours-là. Et ce ministre capable du Christ, l'apôtre Paul, dit, « La nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Lui et eux avaient l'Évangile à prêcher, et le savaient grave et puissant, et ils étaient remplis du Saint-Esprit, de sorte qu'ils ne pouvaient se contenir ni se taire, car s'ils l'avaient fait, ils auraient senti ce malheur. Les hommes ne pouvaient les faire taire, bien qu'ils usassent de violence contre eux, car ils choisirent de souffrir plutôt que de se taire, car se taire, ils n'osaient pas, puisque leur grand Seigneur et Maître leur avait commandé de prêcher, et ils ne pouvaient pas se taire sans se placer sous ce malheur que l'homme ne pouvait ôter. Bien qu'on les emprisonnât, qu'on les fouettât et qu'on les lapidât, et qu'on exerçât sur eux une grande violence, ils témoignaient pourtant, jusque face à ces rois et gouverneurs devant lesquels ils étaient amenés, de leur manière d'adorer, et de la vérité et de la vie qui est éternelle, ne faisant aucun cas de leur vie, ni ne la tenant pour précieux à leurs yeux. Rencontrant le prêtre, qui avait vécu dans la paroisse où j'habitais, je lui dis ce que je pensais, et lui déclarai que je croyais que si Dieu se plaisait à rendre des hommes aptes et qualifiés pour l'œuvre du ministère, comme un don pour cela, et à les envoyer prêcher, ils devaient obéir à Dieu. Et si des hommes leur interdisaient d'obéir à Dieu, ils ne devaient pas négliger leur obéissance à Dieu pour plaire aux hommes, ni se taire sur ordre d'homme, si Dieu leur commande de prêcher ou d'enseigner, comme il le fit à ses serviteurs d'autrefois. Ceux qu'il envoie en ces jours doivent obéir à Dieu, même si l'homme est mécontent et les fait souffrir pour la justice, car le Seigneur est Dieu, et il les aidera et leur rendra au centuple dans leur sein en cette vie, et dans le monde à venir la vie éternelle. Il me dit qu'il prêchait dans sa propre maison louée, comme Paul le fit à Rome, et qu'il ne se taisait pas, mais cela ne me satisfit pas, car Paul était prisonnier, et eux ne l'étaient pas. S'ils étaient restés jusqu'à ce qu'on les en arrache et qu'on les mette en prison, alors ils auraient agi comme des hommes qui se confient en Dieu, et ils seraient restés à voir si les hommes auraient eu le pouvoir de les retirer de leur troupeau, mais ils prirent la fuite et nous laissèrent. Ayant sondé les Saintes Écritures, je trouvai qu'il leur était contraire, et que l'Ancien et le Nouveau Testament étaient contre eux. S'ils avaient été de vrais ministres du Christ, ils n'auraient pas pu se taire, même s'il leur avait fallu donner leur vie, sans savoir qu'après leur départ des loups redoutables pourraient entrer. J'étais pleinement persuadé dans mon esprit, sur les bases susdites, que les presbytériens n'étaient pas les véritables ministres du Christ, et je sentis mon esprit se tourner contre eux, considérant que si Dieu les avait envoyés, ils auraient dû se tenir à leur place. Mais s'ils n'étaient pas envoyés de Dieu, alors ils avaient couru avant d'être envoyés, et n'étaient pas les hommes que je les avais pris pour être, et maintenant ils étaient dévoilés. Ainsi je les quittai, et je vis qu'ils étaient comme ceux dont notre Seigneur parle au chapitre 10 de Jean, qui étaient des mercenaires et non de vrais bergers, car quand ils voyaient venir le loup, ils laissaient le troupeau et s'enfuyaient, mais le vrai berger donne sa vie pour les brebis. Où aller ou que faire, je ne le savais pas. C'est pourquoi j'étais très affligé, et je ne pouvais pas dire qui était le peuple du Seigneur, mais je criais souvent, « Seigneur, montre-moi qui est ton peuple, et ceux qui t'adorent correctement. Je t'en prie, joins-moi à eux, et rends-moi capable de te servir, afin que je jouisse de ta présence. » Si alors je m'étais uni au Seigneur et au don ou à la grâce de Dieu qui apparaissait dans mon cœur, si j'y avais cru et si j'avais obéi à son enseignement, alors j'aurais été uni au Seigneur dans son esprit, et j'aurais aussi été conduit vers ceux qui étaient dans l'esprit avant moi. Car ce sont ces vrais adorateurs, ceux qui sont dans l'esprit, et qui, dans celui-ci, adorent Dieu correctement, lui qui est esprit. Les presbytériens ayant été retirés de la chair, et aussi de mon cœur, alors les prêtres épiscopaliens entrèrent avec leur surplis blanc, et lurent la prière commune, avec de longues formes composées, dont nous n'avions rien dans les Saintes Écritures. Cela me paraissait un son mort et vide, et mon esprit en était affligé, car je n'y rencontrais rien de la vie ni de la puissance de Dieu, de sorte que je vis qu'ils avaient la forme sans la puissance. Et si cela avait été la forme de la piété, étant toutefois sans la puissance, l'Écriture exhorte à se détourner de tels gens, et la puissance par laquelle il était introduit était la même que celle par laquelle les autres avaient été réduits au silence. Et cette puissance avait autorisé le prêtre à contraindre tous à acheter sa marchandise, et si quelqu'un refusait, il avait le pouvoir de l'excommunier de leur synagogue, et ensuite, même si l'homme ne voulait pas de sa marchandise, il avait le pouvoir de le faire payer lorsqu'il était rejeté. Ayant entendu que tous devaient se rendre à cette forme de culte, j'y allais aussi pour adorer, je ne savais pas quoi. Quand j'arrivai, qui devait venir officier, sinon un ancien ministre presbytérien, qui avait tant parlé contre la prière commune épiscopalienne et contre ces cérémonies alors imposées par les hommes. Mais plutôt que de perdre ces grands avantages sommes d'argent qui entraient chaque année en priant et en prêchant au peuple, il avala ce qu'il avait auparavant vomi. J'observai leur culte, et je sondai les Écritures encore et encore, et je trouvai que la puissance dans laquelle ils se tenaient n'était pas la puissance de Dieu, mais celle des hommes. Je trouvai que Dieu commandait, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est là la loi et les prophètes, mais eux faisaient le contraire. » Le Seigneur commanda à son serviteur Paul, disant, « Priez en tout temps, par toutes sortes de prières et de supplications, dans l'esprit astérisque, mais je trouvai les prières épiscopaliennes dans un livre. Je trouvai que le culte que Dieu requiert est en esprit et en vérité, mais le culte épiscopalien était en cérémonies et en choses extérieures sans vie. Je trouvai que le Seigneur commande, dans le Nouveau Testament, de ne pas observer jour, temps, mois et années, mais ses prêtres commandaient d'observer des jours, l'un au-dessus de l'autre. Le Seigneur commanda à ses ministres disant, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement, mais eux ne donnaient rien gratuitement, ils se tenaient prêts à recevoir et contraignaient les gens à leur donner. Enfin, je les trouvais en tout point non conformes aux Écritures, et comme je le conclus alors qu'il n'en allait pas autrement ailleurs, mais qu'ils étaient comme les faux prophètes dont parle l'Écriture. Alors je les quittai, refusant de me joindre à eux, séparé de par le Seigneur, béni soit son nom à jamais, lui qui a fait grâce à mon âme bien au-delà de ce que je puis exprimer. Que des louanges vivantes soient rendues à son saint nom, à jamais. Astérisque commentaire de l'éditeur du site. Certains d'entre vous peuvent penser que le silence entre en conflit avec, prier par l'Esprit en toute occasion par toutes sortes de prières et de demandes. Éphésiens 6:18 remarquez que Paul a dit « prier dans l'Esprit ». Vous ne pouvez pas prier dans l'esprit si les mots sont fabriqués dans votre esprit charnel. Paul s'adressait à des chrétiens qui avaient crucifié leur chair et dont l'esprit charnel avait été remplacé par la pensée du Christ. Car la pensée charnelle est inimitié contre Dieu, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Rome 8:7 Comment des prières provenant d'un esprit en inimitié avec Dieu pourraient-elles plaire à Dieu? Il veut être adoré en esprit et en vérité. Ainsi Paul parlait à des chrétiens mûrs, qui avaient suffisamment d'esprit pour maîtriser leurs paroles, leurs actes et leurs prières. Je les quittai, avec leurs formes mortes, leurs sons morts, leurs œuvres mortes. Oui, tout me semblait mort, et d'être resté là, cherchant le vivant parmi les morts, n'aurait été d'aucun profit pour ma pauvre âme. J'avais cette pensée en esprit, qui a raison, je ne sais, mais ces gens ont tort. Leurs yeux sont aveuglés, leurs oreilles émoussées, leurs cœurs orgueilleux, charnels, cupides, avides de leurs gains, et ils ne profitent nullement au peuple. Quand ils laissent des gens, après 10, 20, 30 ou 40 ans à leur prélever la dîme, ces gens ne sont pas meilleurs malgré toutes les charges qu'on leur a imposées. Ils sont encore de misérables pécheurs, et le resteront probablement. Bien que cela me fût montré, je n'avais pourtant pas encore cette sagesse de venir à la vraie lumière qui me les rendait manifestes, mais j'examinais, selon ma propre sagesse, ce qu'il fallait faire, et pourtant je ne pouvais dire ni découvrir les vrais adorateurs. J'entendis parler d'une sorte de gens très recommandés, qui avaient coutume de se réunir dans des maisons privées, dans une grande crainte d'être persécutés, mais qui étaient fort loués par de grands professants, que je considérais comme des hommes intelligents. J'allai à leurs réunions. Parmi eux certains étaient appelés indépendants, d'autres presbytériens et d'autres anabaptistes. Je trouvai qu'une partie de cette multitude mêlée croyait que Dieu avait élu un certain nombre pour être sauvés et avait réprouvé tous les autres. D'autres d'entre eux prenaient la grâce gratuite, ou le Christ comme un don librement donné à tous. Certains pratiquaient le baptême des enfants dans l'eau, d'autres disaient non, que nul ne devait être baptisé dans l'eau avant de croire, d'autres ne baptisaient pas du tout. Mais la chose la plus importante de toutes, je ne la trouvais pas parmi eux, à savoir, le Seigneur pour ma consolation, et je ne pouvais voir la puissance de Dieu sur eux ni parmi eux, mais l'orgueil abondait, la calomnie les uns envers les autres, les plaisanteries insensées, les paroles vaines se conformant aux coutumes du monde. Beaucoup d'entre eux se conformaient au point d'aller une fois à leur propre réunion privée, puis d'aller à l'église paroissiale au clocher, bien qu'il y ait beaucoup à dire contre le culte de la maison au clocher. Je vis qu'ils craignaient fort les hommes, à ce qu'il semblait, car comme les peines de la loi des hommes étaient lourdes pour tenir des réunions séparées, ils s'arrêtèrent, on ne les trouva plus, et ils se turent, plutôt que de risquer la perte des biens de ce monde. Ainsi j'étais encore dans une grande détresse d'esprit, et je ne savais que faire. Car le Seigneur était ce que je désirais ardemment, et le glorifier était mon souhait, mais je ne trouvais pas ce par quoi le faire. Alors j'allai à Chesterfield pour rechercher et rencontrer ces gens appelés indépendants, car j'aimais le nom, ne voyant rien du tout en l'homme sur quoi dépendre. Mes yeux dépendaient seulement de la mort et des souffrances du Christ dans son propre corps, sans venir à le voir, ni à voir son apparition en eux-mêmes comme leur vie. Ils n'avaient pas entendu sa voix, et la parole de Dieu ne demeurait pas en eux. Ainsi c'étaient des croyants morts et des arbres secs, ne portant pas de fruits. Mais ils prêchaient la grâce gratuite, l'amour universel, la rédemption générale, et offraient la miséricorde à tous. Cela me plut beaucoup, bien davantage que la doctrine presbytérienne de l'élection et de la réprobation. Pourtant je n'étais pas satisfait ni en repos, car je lisais énormément les Écritures, et je vis par cette lecture, avec l'aide secrète du Dieu Tout-Puissant, qu'il m'accordait dans son amour infini, que tous ceux qui sont conduits et guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Voilà une distinction si claire entre les enfants de Dieu et les enfants du mauvais, ou les enfants de ce monde, qu'il n'y a aucune union possible entre eux. Cela est clair d'après les Saintes Écritures. Car la lumière et les ténèbres sont opposées, et le Christ et Bélial, les croyants et les infidèles, sont au-delà de toute union, sans une nouvelle création, une nouvelle naissance, que les non-convertis sont encouragés à attendre, rechercher, demander et espérer. Je vis que sans la jouissance de Dieu dans ma propre âme, tout était vain. Cela me consolait peu de lire et d'entendre ce dont d'autres hommes avaient joui, tandis que moi j'en manquais. L'huile des vierges sages ne pouvait pas servir à elles et à moi aussi. Je vis qu'une petite mesure de l'Esprit de Dieu était plus précieuse que tout ce monde vain, et qu'en deçà de cela je ne pouvais trouver le repos. Je fis mes remarques sur ces indépendants, et je vis qu'ils étaient très orgueilleux, et qu'ils craignaient les hommes et les souffrances, et lorsque nous allions aux réunions, on nous recommandait d'y aller aussi secrètement que possible. Ainsi ils prenaient plusieurs chemins, l'un le long du nez, l'autre le long d'une autre, afin qu'on ne nous remarque pas. Puis, lorsque nous arrivions au lieu de réunion, on plaçait des guetteurs ou des sentinelles pour voir et avertir, afin que si un magistrat venait, nous puissions tous nous enfuir et disperser notre réunion. Cela me parut une chose mauvaise, et cela me déplut, car je vis qu'ils n'étaient pas comme les disciples du Christ, qui n'avaient pas honte ni peur de reconnaître le Christ devant les hommes. Agir ainsi ne tendait pas à répandre l'Évangile s'ils le prêchaient. Je ne jouissais parmi eux d'aucune vraie paix avec Dieu, ni de la jouissance du Seigneur dans ma pauvre âme. Je les quittai donc, ainsi que toutes les églises et tous les peuples, et je demeurai seul comme quelqu'un sans compagnon ni compagne. Toutefois, par moments, quelque espérance surgissait au-delà de mon attente, et je croyais que Dieu avait un peuple quelque part. Mais je ne savais pas qui ils étaient, et maintenant j'avais peur de me joindre à qui que ce soit, de peur qu'ils n'adorent pas Dieu correctement. Alors je pourrais me rendre coupable d'idolâtrie, dont j'avais souvent observé que le Seigneur avait été très offensé chez les Juifs, et non seulement les avait sévèrement menacés par ses prophètes, mais avait aussi fait venir des jugements sur eux, à cause de leur idolâtrie et de leur rébellion contre lui. Les douleurs de l'enfer s'emparèrent de moi, et les angoisses même de la mort m'encerclaient. Je ne savais de quel côté me tourner, et je ne trouvais personne pour me réconforter ou me tendre la main dans mes larmes, mes craintes, mes terreurs, mes chagrins, mes étonnements, mon amertume, mon angoisse et mon profond deuil. Pourtant j'étais porté à discourir et à parler avec beaucoup de personnes de choses de religion, qui voulaient bien parler avec moi, car beaucoup m'avaient en affection. Mais les prêtres que je voyais étaient dans la tromperie, et je me montrais parfois dur envers eux. Et mes douleurs étaient si grandes que, parfois, je poussais des cris, et je criais puissamment vers le Seigneur lorsque je cheminais dans les plaines et les landes, pensant que personne n'était près de moi pour m'entendre ou me voir, sinon le Seigneur seul, qui était le seul vers qui je regardais et en qui j'espérais pour l'aide et la délivrance. Or il plut au Seigneur de m'ouvrir et de me montrer bien des choses, et il m'ouvrait parfois les Saintes Écritures, et j'avais une très grande crainte de pécher contre le Seigneur, de sorte que je marchais avec prudence. Il m'affligeait de voir les gens vivre mal, et qu'ils ne pouvaient se croire les uns les autres, ce qu'ils disaient lorsqu'ils achetaient et vendaient, et lorsque j'entendais un homme jurer, je tremblais. Parfois je sentais quelque chose au-dedans de moi qui m'était très précieux et doux, et pourtant je ne comprenais pas clairement ce que c'était. Mais si, à un moment quelconque, je faisais ou disais quelque chose qui n'était pas juste, alors je perdais bientôt la vue et le sentiment de cela. Oh ! Cela disparaissait en un instant, je voyais que tout ce qui offensait le Dieu saint et méritait réprimande ne pouvait demeurer, mais toute souillure et tout ce qui était teinté de mal lui était contraire. Cela me le faisait voir et le condamnait, et moi aussi, dans la mesure où je m'y joignais. Oh, en jouir est une consolation au-delà de toute parole, pour ce cœur qui aime la justice et la recherche avec fin. Quand j'avais parlé avec une personne qui ne voyait pas que j'avais prononcé un mot de travers, quoique moi je le visse, et que l'Esprit du Seigneur me le faisait voir, bien que cela ait pu m'échapper sans y prendre garde, faute d'attention diligente, et de veiller comme un portier, comme j'aurais dû le faire, alors mes douleurs se renouvelaient sur moi, et les larmes et les craintes en abondance. Pourtant, un désir secret était en moi, que je puisse mourir et sortir de ce monde méchant et pécheur, où je trouvais rare de rencontrer un homme ou une femme au cœur vrai. Un jour du Seigneur, après avoir lu un moment puis pleuré encore, adossé à un mur dans un champ, vers le milieu du jour je rentrai à la maison, et je trouvai que mon père et ma mère étaient venus nous voir, car je vivais alors chez mon grand-père comme apprenti, et je pensai qu'ils m'empêcheraient de m'appliquer à l'exercice intérieur où j'étais, qui était profond. L'après-midi, je tombai malade d'une maladie du corps, et lorsque je sentis ma maladie s'aggraver, je m'en réjouis, ayant quelque espoir d'être retiré de ce monde, car j'étais manifestement malade de troubles d'esprit. Toutefois, une secrète espérance demeurait au fond, que si je mourais, le Seigneur, qui est plein de grâce et de miséricorde, pardonnerait les péchés de mon enfance et de ma jeunesse. Après que je fus assez bien rétabli, j'allai sur la lande arrachée de la bruyère. Et étant seul, comme c'était mon habitude, j'étais très rempli d'exercice, et je commençais à penser que ce que j'avais parfois senti si doux et précieux, et parfois comme un témoin prompt, un censeur, un juste juge et un condamneur de toute injustice, était le Saint-Esprit de Dieu. Et je me rappelais que j'avais souvent été visité par lui, et pourtant je ne le connaissais pas. Car je pensais ne pas être digne que le Saint-Esprit me fût donné, et que ce serait présomption de l'attendre, mais alors il me vint à l'esprit d'y penser beaucoup, et à ses opérations et à son œuvre en moi. Il me traversa l'esprit que c'était réellement l'esprit de vérité, et que je ne l'avais ni senti ni vu se manifester depuis quelque temps, et alors je fus plein de crainte, de peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit. Et une telle terreur tomba sur moi que je n'osai pas demeurer sur la lande, mais je me levai, car j'étais couché à terre, et je m'en allai chez moi. Je me rappelai ce qui m'avait rendu si désireux de mourir le jour où mes parents étaient venus nous voir, lorsque j'avais beaucoup lu et pleuré, et qu'un état si tendre s'était emparé de moi, qu'une espérance avait jailli en moi. Si je mourais dans cet état d'esprit, le Seigneur aurait pitié de moi, de sorte que je désirais mourir tant que cet état et cette espérance dureraient. Pourtant, après tout cela, je retombai dans la détresse, et le chagrin s'empara de moi. En ce temps-là, il m'arriva de rencontrer un jeune homme qui était mécontent des choses de la foi et du culte, et nous convînmes de nous retrouver le jour du Seigneur suivant, dans la maison d'une femme qu'on appelait une Quake, mais je ne le sus qu'ensuite, et je ne connaissais guère de tels gens, bien que j'en eusse entendu parler. Quand le jour fut venu, nous nous rencontrâmes, et il se trouva que deux autres hommes vinrent et se joignirent à nous, on les appelait aussi Quakers, mais ils ne l'étaient pas depuis longtemps. Nous passâmes le jour en grande partie à discuter. L'un des hommes avait peu d'apparence et parlait lentement, et c'était quelqu'un qui n'avait pas coutume de prêcher dans les réunions. Pourtant ce jour-là, la puissance du Seigneur vint sur lui, et il parla de telle manière qu'il atteignit en moi le témoin de Dieu, et je pensai que cet exercice lui était venu par miséricorde pour moi. Mais hélas, j'avais entretenu des pensées si dures contre ces gens, que je rentrai chez moi très affligé. Mon cri montait toujours vers le Seigneur, afin qu'il me montrât Sion, la cité de mon Dieu, et quels étaient ceux qui y demeuraient. Et ce jour du Seigneur, comme j'étais seul, et dans un grand exercice d'esprit au sujet de ces choses, il plut au Seigneur de me montrer son peuple qui le servait. Comme je marchais dans un bois sombre, j'étais si travaillé que je savais à peine où j'en étais. Et lorsque je sortis du bois pour gravir une colline, j'eus une vision, je vis un peuple étendu tout près les uns des autres, dans un lieu très bas, plus bas que les autres parties de la terre, où ils gisaient immobiles et tranquilles. Je les regardai, car il s'éleva en mon cœur qu'ils étaient le peuple du Seigneur. Cela me fit regarder avec attention, pour voir qui ils étaient, afin de les connaître pour ma consolation, eux que le Seigneur reconnaissait comme son peuple, et je vis clairement que c'étaient les gens appelés Quakers, un peuple pauvre, méprisé d'humbles conditions. Quand je le perçus, je fus comme saisi d'étonnement et dans une grande détresse, car c'était, de tous, ce qui endurait les plus grandes souffrances, et que tous les autres haïssaient, injuriaient et tournaient en dérision. Comme je continuais de marcher, la vision prit fin, mais j'étais dans un état étrange, et en y réfléchissant, je sentis un changement en moi, et je sus que mon visage était altéré. J'approchai d'un petit village, et ma route passait par lui. Mais j'avais à cœur d'éviter d'être vu autant que possible, parce que je conclus qu'on remarquerait que mon visage avait beaucoup changé. Or il arriva que, lorsque j'eus presque traversé le bourg, une femme me vit et m'appela, bien que je fusse passé aussi loin d'elle que je le pouvais, en restant sur le chemin. Elle me demanda comment j'allais, et ce que j'avais à avoir l'air ainsi. Je lui répondis peu sinon, pas très bien. Je passai donc, et parvenu au sommet d'une haute colline, je m'assis. Là, il me fut montré que, si je voulais être un vrai disciple de l'agneau, je devais renoncer au monde, à ses voies corrompues, à ses modes, ses coutumes, ses cultes, et à toute sa vaine gloire, son amour et son amitié. Je vis que si j'entrais maintenant dans l'obéissance au Seigneur, qui avait ainsi avec bonté entendu mes cris et répondu à mes soupirs, ou plutôt aux soupirs qu'il avait suscités en moi, je devais me séparer de toute la réputation, l'amitié, l'amour et la louange des hommes dont je jouissais alors et dans lesquels je vivais. Et je devais quitter mes anciens compagnons, avec lesquels j'avais gaspillé beaucoup de temps précieux en vain amusement et jeu, où nous vivions et prenions plaisir, ainsi que bien d'autres choses que j'estimais fort, tout cela. À cela j'étais très troublé, car j'étais fort réticent à perdre l'un ou l'autre, et j'aurais volontiers voulu savoir à la fois l'amour de Dieu et l'amour des hommes. J'aurais choisi de jouir à la fois de Dieu et du monde, mais je ne le pouvais. Mon amour pour ces vanités était si grand, et je les estimais tant, qu'il m'était très pénible de penser perdre tout pour Christ, oui, presque aussi aimé que la mort à mes yeux, car j'accordais grand prix à l'amour et à la faveur des gens, et la croix était si grande que je ne pouvais alors me persuader de la prendre. Le conflit où j'étais était grand, et une guerre très âpre était en moi. Pourtant je ne révélais mon état à personne, mais je gardais tout secret devant les hommes. Mais l'œil qui voit tout m'observait, et ne permit pas que je fusse vaincu, ni que l'ennemi détruise ma pauvre âme. Cependant il permit à l'ennemi de m'éprouver et de me mettre à l'épreuve, jusqu'à ce qu'il plût au Seigneur de susciter en moi son témoin vivant, que j'admirais sans savoir ce que c'était. La grâce ou le don de Dieu qui apporte le salut, qui m'apparut bien que je l'eusse attristé et désobéi, jusqu'à ce qu'il semblât diminuer de plus en plus et se retirer si longtemps que je n'en voyais presque plus la manifestation. Pourtant il ne me quitta jamais entièrement, quoique je me rebellasse souvent contre lui, mais il me reprenait, me réprimandait et me jugeait, de sorte que je ne pouvais être en paix, parce qu'il m'aimait et ne me laissait pas, attendant de me faire grâce, mais j'étais réticent à suivre son conseil. J'étais grandement travaillé dans mon esprit, insatisfait des choses de l'éternité, mes douleurs étaient profondes, et nul homme ne les connaissait. Avant que je ne sois rentré, l'ennemi s'approcha comme s'il eût voulu me chuchoter à l'oreille ces mots, « Qui sait si ce ne serait pas une ruse de l'ennemi, entendant par là la vision ?» En moi, une part apparut bientôt, qui sembla se complaire à ce chuchotement, et dit « Il est fort possible que ce soit ainsi. Ainsi mon ancien moi cherchait à se sauver. » Alors je me rappelai que les prêtres de ces temps-là avaient prêché contre toutes ces choses, disant qu'on ne devait pas s'y attendre en ces jours. Mais ils affirmaient que visions, révélations et miracles avaient tous cessé, et que c'était présomption pour quiconque d'attendre que l'Esprit de Dieu lui fût donné maintenant comme autrefois. Je rejetai donc tout cela de nouveau comme une chose dangereuse et n'y prêtai plus attention. Je désirais même, et j'étais prêt à dire en mon cœur, « Oh ! Que le Seigneur veuille bien, en ces temps périlleux, parler audiblement à quelque homme comme il le fit à Moïse, afin que nous connaissions assurément sa pensée, puisque l'un crie « Voici ici » et l'autre « Voici là », mais Christ, la puissance de Dieu, n'est en aucun d'eux. » Une si grande cécité et une si grande obscurité s'emparèrent de moi, et une ignorance lamentable, lorsque j'eus rejeté le conseil du Seigneur, foulé aux pieds une visitation si extraordinaire, et lui eut tourné le dos comme étant l'œuvre de l'ennemi. J'ai de grandes raisons d'admirer les miséricordes du Seigneur envers moi, de ce que je ne fus pas entièrement abandonné par lui, car son œil était encore sur moi, bien que, pendant un temps, je fusse dans de profondes ténèbres et dans la détresse, et que mon souci fût très grand. En ce temps-là, je m'entretenais avec beaucoup d'hommes de diverses opinions, mais je n'en trouvais aucun qui pût m'aider en cette affaire, parce que je ne venais pas à celui qui est puissant, sur qui l'aide est déposée. Ainsi étais-je comme un oiseau seul dans le bois, sans compagne, uni à personne. Dans cet état, je rencontrai un exercice inattendu, car dans les quelques jours qui suivirent, un jour du Seigneur, un jeune homme vint à moi, plein de questions et grand chercheur, qui me dit qu'un livre venait de paraître, contenant, autant qu'il le savait, les plus grands mystères qui aient jamais été. Il disait que Dieu avait parlé audiblement à John Reeve de Londres, et lui avait ordonné d'aller vers Lodowick Mugleton, que Mugleton devait être comme sa bouche, comme Aaron le fut pour Moïse, et qu'il leur avait donné une commission au-dessus de tous les hommes, et le pouvoir de bénir ceux qui les croyaient, et de maudire ceux qui parlaient contre eux, et que ceux qu'il bénissait, disait-il, étaient bénis, et ceux qu'il maudissait étaient maudits pour toute l'éternité, avec beaucoup d'autres choses étranges. Je désirais vivement voir le livre, car si cela était vrai, c'était la chose même que j'avais souhaitée, et je pensais en moi-même qu'aucun homme n'oserait présumer dire une telle chose, si elle n'était réellement vraie. Quelques jours après, j'allai à Chesterfield et le vis. Et comme quelqu'un dont le souhait était exaucé, je le lus avidement. Et en lisant l'endroit où il disait que le Seigneur lui avait parlé et lui avait donné, à lui et à Mugleton, une commission, et qu'ils étaient les deux témoins dont il est parlé au chapitre 11 de l'Apocalypse, j'étais prêt à le croire. J'empruntai alors le livre, et ensuite je l'achetai, ainsi que plusieurs autres de ses livres, ce qui me coûta 8 shillings, et je l'ai lu entièrement plusieurs fois, et j'étais d'accord avec lui sur beaucoup de points. Et à la fin, je fus si pris par l'histoire que j'étais sur le point d'en être trompé, et le jeune homme aussi. Alors il plut au Seigneur, dans sa miséricorde, de me visiter de nouveau, d'ouvrir mes yeux et d'éclairer mon intelligence, et il me fit voir de grandes erreurs dans le livre, que ces écrits étaient manifestement opposés aux saintes écritures sur bien des points, car ceux qui étaient de cette opinion, et entraînés à croire le faux prophète Mugleton car Reeve était mort, n'avaient aucun culte du tout. Quand nous nous réunissions, les quelques-uns qui se retrouvaient chez une veuve Carter, nous n'attendions pas Dieu, et il n'y avait aucun autre exercice, ni prédication, ni prière, ni lecture des saintes écritures. Non, nous n'avions plus qu'à croire Mugleton et être sauvés. Ainsi nous passions quelque temps à discuter, puis nous nous séparions. Je vis clairement, d'après les saintes écritures, que le Seigneur voulait que les hommes l'adorent, selon sa propre volonté, en tous les âges, et qu'il serait sanctifié dans l'assemblée de ses saints, et tenu en révérence par tous ceux qui l'environnent, mais il n'y avait rien de cela chez les Mugletoniens. Et bien que le Seigneur ait dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, ni eux ni moi n'en savions rien », il fallait se confier au nom et au pouvoir de Mugleton, et s'il nous bénissait, nous étions bénis, quelle que fût notre conduite. Mais s'il nous maudissait, nous étions maudits, il n'y avait aucun remède. Je trouvais cette doctrine contraire à la doctrine de Christ, le vrai prophète, qui a dit « Bénissez, vous dis-je, et ne maudissez pas ». Mais je vis que l'esprit de Mugleton prenait plus de plaisir à maudire qu'à bénir. Je lui écrivis une lettre et formulai 12 ou 14 objections contre sa doctrine, que je lui envoyai à Londres. Il m'envoya une lettre en retour, me renvoyant à ses livres, mais il ne répondit à aucune des objections. Il me dit qu'il jugeait que j'écrivais dans l'ignorance et en cherchant, et qu'en conséquence il s'abstenait de me maudire jusqu'à une épreuve ultérieure. Mais je le quittai, et je demeurai satisfait qu'il était un faux prophète. Mais j'étais comme un homme dans un nuage, personne ne voyait mon état, et moi-même je le voyais à peine autant que je l'aurais voulu. En ce temps-là, je fus cruellement tenté, et pourtant une certaine espérance demeurait très au fond, que je rencontrerais Christ en esprit et connaîtrais son esprit dans ma propre âme. Car je compris, par les Écritures, qu'il était répandu sur toute chair, sur les fils et les filles, et que rien ne pouvait être fait d'agréable au Seigneur en dehors de lui, et que ceux qui sont conduits et guidés par le Saint-Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Je vis que tout culte qui n'est pas en esprit et en vérité n'est pas acceptable à Dieu, car tous les prophètes et les apôtres y vinrent, l'ayant reçu selon la prophétie de Joël 2:28 et la promesse de Christ, Luc 24:49, comme dans Acte 2. Après avoir été occupé de ces livres, et en avoir fini avec eux, je résolus de cesser de lire de tels livres étranges, et de ne lire que les Écritures de vérité, ce qui me rendit un peu de tranquillité. Mais je ne savais pas comment venir à Christ, dont j'avais grand besoin. J'étais presque sans espérance, et je m'entretenais avec beaucoup de gens. Mais je ne trouvais ni vraie paix, ni réconfort, ni satisfaction. J'étais encore dans beaucoup de chagrins secrets, et je n'étais pas assez sage pour prêter attention aux dons ou aux témoins de Dieu en moi. Si j'entendais rapporter du mal du peuple appelé Quakers, j'en étais content et j'y puisais du courage pour continuer, méprisant la manifestation de la vérité dans mon fort intérieur. Pourtant l'amour de Dieu envers moi était si grand qu'il ne m'ôta pas son Saint-Esprit. Louange, louange vivante, à son saint nom pour toujours. Je quittai l'endroit où j'avais vécu tout le temps, et je vins demeurer à Moniach, à 6 000 de là. Je demandai quel genre de croyance y trouvait, et je trouvai un peuple appelé Anabaptiste, dont je savais très peu, mais je préférais les fréquenter plutôt que les grossiers gens du monde. Je m'entretenais beaucoup avec eux, et je me pris d'affection pour eux, ce qui me fit connaître non seulement leurs principes, mais aussi leurs pratiques en matière de culte. Et quand je les vis, je pouvais peu dire contre elles, mais je pensais qu'il y était ce qui s'approchait le plus des Écritures parmi tout ce que j'avais essayé jusque-là. C'est pourquoi j'allais à leurs réunions, et j'étais presque persuadé que je devais être plongé dans l'eau, car à moins de l'être, je n'avais pas d'admission dans leur église. Ne voyant pas plus loin, j'aurais volontiers accepté, cette voie étant bien plus facile pour la chair que d'obéir au don de Dieu en moi. Mais je ne pouvais parvenir au baptême d'eau dans la foi, car les entendant prêcher que le baptême d'eau est un signe de mort, d'ensevelissement et de résurrection, et qu'un homme doit être mort avant d'être enseveli car, disait-il, il est monstrueux selon la nature d'ensevelir un homme avant qu'il ne soit mort, puis trouvant que la Sainte Écriture disait « Celui qui est mort est affranchi du péché, et comment, vous qui êtes mort au péché, vivriez-vous encore dans le péché ?» Je m'examinai, et je trouvai que je n'étais pas affranchi du péché, donc je n'étais pas mort, donc je n'étais pas propre à être enseveli, et avant d'être mort et enseveli, je ne pouvais connaître une résurrection vers la sainteté et la justice. Et si j'allais me faire ensevelir sous l'eau comme si j'étais mort, je dissimulerais et mentirais, ou agirais faussement à la fois envers Dieu et envers les hommes. Cela me tint éloigné de l'eau, mais l'un de leurs chefs vint un jour me demander pourquoi je n'avais pas été plongé. Je lui répondis comme ci-dessus, il me dit, « Beaucoup viennent qui, je crois, sont plus inaptes que vous. » Je lui dis que cela ne me concernait pas, je n'osais pas. Après cela, j'allai voir ma sœur être plongée dans une rivière appelée Lawai, puis après elle deux jeunes hommes. et lorsqu'ils ressortirent de l'eau, je passai quelque temps avec eux. Je les observai, eux qui étaient passés de la mort à la vie, comme ils l'indiquaient, mais je ne vis aucune manifestation de l'Esprit, ni nouveauté de vie, ni puissance, ni qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, leur baptême n'étant que d'eau, laquelle ne peut que laver la souillure de la chair. Mais ceux qui sont baptisés en Christ doivent être baptisés en sa mort, en mourant au péché, et être ensevelis par son baptême en la mort, afin que, rendus libres du péché, ils puissent venir à avoir part en Christ, la résurrection et la vie, par qui ils sont vivifiés pour Dieu. Car en Christ la vie est manifestée, et nous l'avons vue, et nous avons goûté et touché la bonne parole de vie, qui a été comme un feu et comme un marteau pour briser nos cœurs de pierre. Et l'eau a jailli, et nous avons senti nos cœurs renouvelés et nos consciences purifiées, lavées d'une eau pure, pour répondre aux pures exigences du Seigneur. Nos âmes étant baptisées en Christ, et Christ étant revêtu, en lui nous avons une demeure sûre, et nous en venons à voir que, de même que nul ne fut sauvé par l'arche de Noé, sinon le petit nombre qui y était, ainsi nul ne peut connaître le salut, sinon ceux qui sont en Christ, l'arche de l'Alliance éternelle. Car il est donné, pour être une alliance au peuple, une lumière pour éclairer les gentils, ouvrir leurs yeux aveugles, et être le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé que celui de Jésus-Christ, à lui soit rendue toute gloire à jamais. Je trouvai que ce vers qui je regardais aurait dû être mort au péché, comme ils professaient l'être, et pourtant y vivaient, et le justifiaient pendant toute la durée de leur vie. Alors je commençai à remettre en question leur forme, et par miséricorde, je trouvai que ce n'était qu'une forme sans vie ni puissance, et je vis clairement qu'ils n'étaient pas dans la puissance et l'Esprit de Dieu. Ainsi la miséricorde du Seigneur me préserva, et sa longanimité fut mon salut. Il me chassa de toutes les inventions et imaginations des hommes, et me dépouilla, nu et démuni. Je n'avais aucun refuge, car ces figuiers ne portent que des feuilles, et c'était du pain que je voulais, car ces choses extérieures n'apportaient aucune paix, aucune puissance, aucune vie au-dedans, et ne pouvaient, ni ne peuvent jamais sanctifier ni rendre parfait, quant à la conscience, ce qui s'y attache, et c'est pourquoi elles ne peuvent satisfaire la naissance immortelle. Pourtant je demeurai avec eux jusqu'au jour où, étant assis à la réunion, j'observai que les anciens et les principaux orateurs se poussaient les uns les autres à prêcher et à prier disant « Prie donc, toi, tu es plus capable que moi ». Ainsi ils s'exhortaient l'un l'autre, et tandis que je les voyais et les entendais, une aversion s'éleva en moi contre ces agissements, et je dis en mon cœur « Pourquoi vous désignez-vous l'un l'autre ? Que Dieu désigne, qui lui plaît. » Ensuite, une grande puissance et un grand poids vinrent sur moi, et j'eus dans le cœur d'aller parler à la réunion. Quand je sentis cela, cela augmenta en moi, et je ne savais comment me contenir si je ne cédais pas pour parler. Je cédai donc, et j'avançai à travers l'assemblée vers ceux qui se traitaient l'un l'autre comme il a été dit, et je demandai qu'on me laissât la liberté de dire quelques mots, et l'un d'eux me dit que ce n'était pas leur coutume d'admettre quelqu'un à parler parmi eux avant qu'il eût été plongé, et qu'il fût entré par la porte et eût passé par les ordonnances, ou quelque chose de ce genre. Mais dit-il, nous croyons que vous êtes un homme honnête, et vous viendrez, et ainsi vous pouvez prendre votre liberté. Je me tournai alors vers l'assemblée, et je parlai de telle sorte que les larmes coulaient. Je m'étonnais de l'état où j'étais alors, car j'étais comme une bouteille débouchée, la puissance de l'Esprit coulait en moi, et lorsqu'elle s'arrêta, je cessai de parler. Le jour du Seigneur suivant, j'y retournai, et il arriva, au fil du temps, que la réunion se tint dans la maison d'un ancien, un certain Humphrey Chapman. En ce temps-là, on mit en vigueur un acte très méchant contre les réunions religieuses tenues autrement que selon la liturgie ou la pratique de l'Église d'Angleterre, là où plus de 5 personnes, outre la famille, étaient assemblées. L'amende était de 20 livres pour la maison, et de 20 livres pour le prédicateur, et de 5 shillings pour un auditeur. Mais l'ancien, comme on l'appelait, refusa la réunion, par crainte d'une amende de 20 livres. Alors on la proposa à un autre, qui était non seulement ancien mais prédicateur, et qui avait plongé les deux hommes mentionnés, mais il la refusa par crainte de ses 20 livres. Alors on la proposa à un troisième, qui l'accepta pour ce jour-là, bien que, selon l'ordre habituel, ce ne fût pas à son tour de recevoir la réunion chez lui. Mais quand je vis les deux autres refuser la réunion par crainte de souffrir, l'un étant un prédicateur, qui avait plongé deux hommes alors que je me tenais près de lui, je ne fus pas peu troublé, car je me rappelais les paroles de Christ qui dit « Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux ». Ainsi, après la fin de la réunion, ils discutèrent de ce qu'ils devaient faire à l'avenir, car ils ne pouvaient rester dans cette impasse, et la question était de savoir où et quand ils devraient se réunir, à propos de quoi ils divergeaient beaucoup. Certains voulaient se réunir au fond d'une vallée pour éviter l'amende d'une maison. Quant au moment, certains voulaient se réunir tôt, afin d'avoir fini quand le prêtre et les gens sortiraient de la maison au clocher pour dîner. mais d'autres voulaient commencer alors. Les uns étaient d'un avis, les autres d'un autre, mais il y en avait un que j'aimais le plus, qui souhaitait qu'ils se réunissent comme ils l'avaient fait auparavant. Comme j'étais assis et que je les regardais, je sentis s'élever en moi la même puissance dans laquelle j'avais prêché parmi eux, une semaine auparavant avec ces mots, « Ces gens ne sont pas le peuple de Dieu, ils ne se tiennent pas dans la puissance de Dieu. » Je le crus et je m'en allai satisfait que c'était ainsi, je les quittai et n'allai plus me joindre à eux dans le culte. Une fois encore je me trouvai mis à part, et je n'osais me joindre à aucun de ces formalistes. J'étais comme une brebis perdue, égarée loin de mon berger, dont après longtemps je me remis à me souvenir, et je fus persuadé que c'était le don de Dieu, ou l'Esprit de vérité, qui venait à moi pour me conduire et me guider dans la voie de la vérité. Cela fit naître en moi une grande crainte et une grande appréhension, de peur d'avoir péché au point d'épuiser mon jour de visitation, et je me demandais beaucoup s'il me réapparaîtrait jamais ou non. Pourtant j'avais une espérance secrète qui m'empêchait d'être tout à fait sans espoir, et je redevins fortement travaillé dans mon esprit, et le vrai labeur de mon âme était de jouir du Seigneur, et d'être un instrument pour sa gloire, afin que je connaisse sa volonté et son culte, et que je les accomplisse, et que je sois uni à ce qui lui était uni. J'étais comme un oiseau moucheté, nul n'était comme moi, car je n'étais pas encore allé à une réunion de Quakers, mais je pensais vivre aussi saintement et justement que je le pourrais parmi les hommes, et ne me joindre à aucun culte, de peur d'être trompé en me joignant un faux culte, à un culte de volonté et à l'idolâtrie. Parfois j'allais à 2000 pour voir une femme à Overhaden qui prétendait vivre sans nourriture, et là je rencontrais des gens professants, je crois pouvoir dire de toutes sortes. Un jour un homme de Londres vint, qu'on appelait un indépendant, et il y eut une réunion. Et lui, ayant entendu parler de moi, me demanda de prier avant qu'il ne commence à prêcher. Mais je sentis en moi un zèle s'élever contre le fait de mettre les hommes à ce service, qui appartenait à Dieu seul d'exiger et d'inspirer. Je refusai, et il continua, lui qui pouvait faire ce qu'il avait envie de faire, autant que je pouvais en juger, selon sa propre volonté. Puis il pria et prêcha. Mais avant qu'il eût fini de prêcher, j'étais si pressé dans mon esprit de prier que c'était un grand exercice de m'en abstenir jusqu'à ce qu'il eût terminé. Alors je priais, mais avec une telle puissance que les gens en furent étonnés, et moi aussi en vérité, car je n'avais jamais prié ainsi auparavant car sagesse, foi et parole me furent données. Ensuite je rentrai chez moi, et je me tins éloigné de tous, sans me joindre à personne, ayant essayé presque toutes les persuasions parmi les protestants. J'avais beaucoup de chagrin en secret, et j'étais profondément baptisé de l'esprit de jugement et de brûlure, et je vis le baptême du Saint-Esprit et de feu, et mon orgueil et ma science vaine, mes notions et mes opinions, oui, ma foi acquise par la sagesse des hommes furent consumées. Oh, la coupe dont je bus profondément en ce temps-là est indicible. Quand le Saint-Esprit apparut en moi, le Jourdain déborda ses rives, c'était profond en ce moment-là, mais au milieu du jugement le Seigneur fit miséricorde. Il me vint fortement à l'esprit, et j'étais prêt à conclure que ce que j'avais senti en moi était réellement l'Esprit du Seigneur qui m'avait attendu longtemps et avait lutté avec moi. Comme je le dis un jour à deux personnes professantes, quelque chose apparaissait en moi, comme quelqu'un qui serait disposé à recevoir. Mais faute d'avoir le cœur ouvert, et d'être enclin à l'embrasser, à le recevoir et à y prendre garde, je perdais souvent la vue et le sentiment de cela. Ceux à qui je racontais mon état ne me dirent absolument rien, et ne purent me dire ce que c'était, bien que je leur eusse dit qu'ils devraient me l'apprendre. Son apparence était douce, humble, basse et gentille, pleine de bons conseils, mais elle demeurait toujours ferme et condamnait le mal, le réprouvant, le reprenant et le jugeant avec justice, de sorte que j'étais fortement persuadé, au secret de mon cœur, que c'était le pur et saint Esprit de Dieu, et alors je pensais que s'il ne revenait pas, mon état serait terrible, triste et déplorable. Je gémissais et me lamentais, mais nul ne connaissait mes douleurs, sinon le Seigneur seul. À présent, je ne savais que faire, car je trouvais que ma résolution précédente de vivre une vie sainte et d'être aussi juste que je le pourrais ne m'aidait pas à être en paix avec Dieu, et je n'avais aucun vrai repos pour ma pauvre âme, ni jour ni nuit. Car je n'avais pas la force de vivre comme je désirais, bien qu'aucun homme ne pût me condamner pour quelque mauvaise action, pourtant je voyais en moi ce que les autres ne pouvaient voir. La présence du Seigneur me manquait, car sans elle mon âme ne pouvait être satisfaite ni trouver un vrai repos. Bien que ma vie et ma conduite fussent telles que la plupart de ceux qui me connaissaient m'aimaient. Vers ce temps-là, j'entrai dans l'état de mariage et je tins maison. Après quelque temps, ma femme insista pour que j'aille avec elle entendre un prêtre, mais je n'osais pas, car je voyais qu'ils étaient dans l'erreur autant que n'importe qui, hormis les papistes, et une grande tristesse tomba sur nous, et nous disputions souvent jusqu'à ce que nous pleurions tous deux. Dans cet état, je rencontrai de grandes tentations, et l'ennemi chercha ma ruine, de l'âme et du corps. Tout cela, je le gardais secret. Personne ne connaissait le profond chagrin sous lequel j'étais nuit et jour, car je n'avais personne à qui ouvrir mon esprit sinon ma femme, et je n'osais pas lui dire, de peur de l'affliger et de l'effrayer à mon sujet. Et pourtant, parfois, après une recherche attentive, je trouvais un peu d'espérance, mais elle était très basse et très petite. Après un temps, un cri s'éleva en moi vers le Seigneur. Oh, si je connaissais sa volonté et ce qu'il voudrait que je fasse, si je connaissais son peuple et son vrai culte, celui qui lui est agréable, afin que je puisse être uni à ceux qui lui sont unis. Oh, si je comprenais correctement les choses qui appartiennent à ma paix. Quand je m'éveillais le matin, un cri secret s'élevait dans mon cœur. Oh, que ce jour soit mon jour de naissance, car je voyais que j'avais besoin de naître de nouveau, d'être fait nouvelle créature, et mon exercice était très grand. Je ne pouvais trouver de réconfort en rien de ce que ce monde offrait, sans la jouissance de sa présence. Pour cela, je travaillais en esprit devant le Seigneur, et j'avais quelque espoir qu'il me ferait miséricorde, ce dont, béni soit son nom, je rends témoignage. En son temps, il fit lever dans mon cœur l'esprit de son Fils, avec une telle puissance et efficacité, que je vis clairement que c'était bien l'Esprit de Dieu, que j'avais si longtemps attristé, et cela engendra en moi une tristesse selon Dieu. Alors je vins à lui pour demander conseil, et il me montra la voie de la vie, et me donna le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Béni soit le Seigneur à jamais. Un jour, au temps de la moisson des blés, comme je chevauchais sur la route de Sheldon, dans un profond exercice considérant mon état, étant dans une profonde tribulation et angoisse me condamnant et me jugeant moi-même, il plut au Seigneur, soudainement de manière inattendue et imprévue, de faire lever dans mon cœur l'étoile du matin, et le soleil de justice avec la guérison dans ses ailes, alors même que les douleurs de l'enfer semblaient s'emparer de moi. Alors il plut au Seigneur d'apparaître en moi, et de me visiter par l'aurore d'en haut, d'une manière très puissante et merveilleuse, en grande miséricorde, bonté, bienveillance et infinie tendresse d'amour. Dans mon homme intérieur, j'étais rempli de la puissance et de la présence de Dieu Tout-Puissant, et sa lumière céleste et glorieuse resplendissait en moi avec force, de sorte que je puis dire en vérité qu'elle surpassait de beaucoup l'éclat du jour extérieur. Et l'œil de mon intelligence fut ouvert, et je vis que c'était le Saint-Esprit du Seigneur qui apparaissait en moi, et je crus, et je ne pouvais faire autrement. Oh, alors je me réjouis, et mon âme fut remplie de joie, parce que j'avais rencontré le Seigneur, dont je savais qu'il suffisait à m'enseigner toutes choses, et il me fit voir que mes péchés seraient remis et pardonnés en et par Jésus-Christ. Christ Jésus était maintenant devenu ma lumière et mon salut, et une foi vivante jaillit en moi, car je sentis puissance et force pour croire. Et alors je vis et je sentis ce qu'était la vraie foi, et aussi que je n'avais jamais eu auparavant une vraie foi vivante, c'était le libre don de Dieu, car elle jaillissait dans sa puissance et s'y tient. Je vis aussi la vie éternelle manifestée par Christ Jésus, ainsi je goûtai la bonne parole de Dieu, je fus rendu participant du Saint-Esprit, et j'en fus éclairé. Car la vie fut manifestée, et je la vis, et je vis que le Fils de Dieu était venu, et qu'il m'avait donné une intelligence pour connaître celui qui est vrai, car il se révéla, ou se fit connaître, en moi et à moi. Désormais mon âme fut vivifiée et ranimée en lui et par lui, en qui est la vie, et je l'entendis aussi comme le berger et l'évêque de mon âme, qui s'était approché, jusqu'à mon âme même. Et les saintes Écritures me furent ouvertes, à ma surprise et à ma joie, et je les compris bien au-delà de ce que je les avais comprises auparavant. Et elles devinrent plus douces, plus consolantes et plus précieuses pour moi, si bien que je m'étonnais de ne les avoir jamais vues ainsi auparavant, les ayant lues tant de nuit que de jour. Mais maintenant le Seigneur me donna, selon une mesure, de les comprendre, car elles étaient très claires, et nul homme ne les connaît, sinon ceux à qui cela est donné par le Saint-Esprit de celui qui a la clé de David, et qui ouvre et ferme comme il lui plaît. Je gardai ce que j'avais trouvé ce jour-là, et ce fut pour moi comme la perle de grand prix, caché dans mon propre champ, que j'avais cherché dans diverses formes et professions. Et je compris alors les paraboles de la pièce d'argent perdue dans ma propre maison, et du petit levain caché dans mes trois mesures de farine, que je vis être mon corps, mon âme et mon esprit, et que cela avait longtemps travaillé en moi, tandis que je ne le savais pas, afin de lever toute la pâte par sa propre nature divine, capable d'être levée en bien, par l'action de ce bon et parfait don descendu d'en haut, qui m'avait été donné gratuitement par Dieu, car les fils de Dieu étaient conduits et guidés en toute vérité. C'est lui qui rendit David plus sage que tous ses maîtres, qui l'assista dès sa jeunesse, et l'habilita à aller contre le lion, l'ours et le grand Goliath au nom du Seigneur. Je vis qu'aucun homme ne pouvait être enfant de Dieu sans son Saint-Esprit, et c'était la connaissance qui m'avait manqué tous les jours de ma vie, et je me réjouis lorsque je sentis et sus qu'il m'était donné librement. Désormais, mon grand souci était d'y prendre garde et de lui obéir, car c'était mon maître et mon témoin, qui excuserait ou accuserait selon mes actes, et mon censeur et instructeur, qui me montrait tout ce que j'avais jamais fait, et aucune pensée, parole ou action ne lui était cachée. Je me réjouissais d'avoir trouvé un tel consolateur et qu'il fût répandu sur toute chair, selon sa promesse dans Joël 2 et Acte 2. L'apôtre dit, « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'un. » Grande avait été l'œuvre de cette mesure de grâce en moi, venue par Jésus-Christ, afin de faire de moi une nouvelle créature en Christ, ma vie, ma lumière et mon salut, ou de me lever en une patte nouvelle et d'opérer en moi un changement complet, moi qui en avais grand besoin étant, dans la nature corrompue, un enfant de colère comme les autres. Pourtant je n'en avais pas une connaissance claire, tant mon ignorance avait été grande, et bien que la lumière brillât dans mon cœur obscur et ignorant, et rendît manifeste toutes les choses réprouvées, mon cœur enténébré n'avait pas compris que c'était la lumière de Christ qui œuvrait ainsi en moi. Car nous vivions dans les ténèbres, dans la nuit de l'aveuglement. Nous semions pour la chair, nous prenions plaisir à l'injustice et vivions dans les délices, ayant nos affections fixées sur les choses d'en bas et non sur celles d'en haut, aimant le monde et la louange des hommes plus que celle de Dieu. Car l'amour de Dieu ne nous était pas encore connu, ni répandu dans nos cœurs, de sorte que nous le voyions ou le sentions comme étant son amour. J'étais dans une profession de religion sans vie, jusqu'à ce que le Seigneur m'apparût et fit lever dans mon cœur la lumière de son Fils, pour ma joie et ma satisfaction extrême. Mais lorsque je fus amené à la connaissance de cela, ce qui était l'œuvre du Seigneur, et ce fut merveilleux à mes yeux, mon chagrin fut changé en joie, et l'amour de Dieu fut fortement ressenti en moi. Un grand amour s'éleva dans mon cœur envers le Seigneur, et je fus profondément désolé d'avoir jamais péché contre lui, et je sentis qu'une vraie repentance m'était donnée, et je vis que je n'avais jamais su auparavant ce qu'était la vraie repentance. À présent, j'avais un tel sentiment et une telle assurance de l'amour, de la miséricorde et de la bonté de Dieu envers moi en Christ Jésus, et à cause de lui, qui m'était désormais devenu précieux, que si j'étais mort à cette heure-là, j'étais assuré du bonheur et de la paix éternelle de mon âme. Oh ! Alors toute crainte de la mort et de l'enfer fut ôtée. Car je sentis clairement mon âme si touchée par l'amour de Dieu, que j'étais troublé de l'avoir affligé, lui, son Saint-Esprit, et grand était mon désir de ne plus le faire. Je continuai, en me réjouissant, avec des louanges et des actions de grâce qui s'élevaient dans mon cœur vers le Seigneur, ma joie étant grande en lui, et j'étais prêt à penser que mes douleurs étaient finies et mes larmes essuyées. Un cantique nouveau me fut donné, que nul ne peut chanter, sinon celui qui l'a, et je me réjouissais de sentir la précieuse vérité dans mon fort intérieur que Dieu aime, et il aime ceux qu'il aime, qui y vivent et lui obéissent. Oh, quel jour heureux ce fut pour mon âme! J'aimais les saintes Écritures, qui ne m'avaient jamais été aussi douces et précieuses auparavant qu'elles l'étaient alors, et j'aimais tous les hommes, et je désirais ardemment qu'ils soient amenés à la connaissance de la vérité comme moi, car je savais que c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Ainsi, ayant rencontré le Seigneur pour ma joie et mon réconfort, je sentis que son Saint-Esprit était à juste titre appelé le Consolateur, qui conduit et guide dans toute la vérité, ce que je me réjouissais de connaître, sentir, goûter et toucher. Puis je tournai mon esprit vers le Seigneur pour m'entretenir avec lui, désirant savoir qui était son peuple, afin de me joindre à eux et de l'adorer correctement, selon sa propre volonté. Le Seigneur, dans sa miséricorde, me répondit, comme je le priais, et la parole du Seigneur fut si puissante dans mon cœur que je ne pus faire autrement que d'y croire. Le Seigneur me fit connaître que le peuple appelé Quake est son peuple au-dessus de tous les autres peuples. Quand je compris que c'était le peuple du Seigneur, je sentis en moi une part qui en était affligée, car si cela avait été un autre peuple, j'aurais pu être plus libre de plaire au monde, de conserver son amitié et de n'être pas tant haï par lui. Car ce peuple était méprisé, persécuté et souffrait profondément plus que d'autres, car d'autres pouvaient fuir les souffrances et se conformer un peu parfois, mais ceux-ci demeuraient et tenaient bon, bien que les vents soufflassent, que les pluies tombassent et que les flots les assaillissent, car le Seigneur leur donnait de tenir et de résister, que toutes les louanges lui soient rendues à jamais. Je sentis l'Esprit du Seigneur et ne pouvais mettre en doute la vérité de ce qu'il m'avait manifesté, seulement j'observai dans mon esprit que le Seigneur avait dit, « Le peuple appelé Quakers est mon peuple au-dessus de tous les autres peuples, non qu'il fût son peuple seul et nul autre, mais au-dessus de tous les autres. » Je conclus donc qu'il y en avait beaucoup d'autres qui n'étaient pas encore appelés Quakers, qui seraient amenés à le connaître, comme je le fis alors, et à sentir qu'il est bon, et à avoir son amour répandu dans leur cœur, et à l'aimer par cet amour, et à s'aimer les uns les autres pour l'amour de lui. Je sentis de l'amour pour tous, conformément à ce saint cantique, paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes, louange, gloire et humbles actions de grâce à Dieu, car en lui est une joie ineffable et glorieuse, bien au-delà de ce que je pensais jamais connaître. Il y avait un jeune homme marchant à quelque distance de moi, et je sentis de l'amour pour lui, bien que je ne susse pas à ce moment-là qu'il fût d'aucune communauté, mais il fut ensuite convaincu de la vérité, et ce fut un homme très honnête, et sa femme et trois filles et deux filles furent aussi avec le temps amenées à la connaissance de la précieuse vérité, et quelques-uns d'entre eux y demeurent jusqu'à ce jour, et l'un d'eux eut la bouche ouverte pour prêcher la vérité. Voyant que j'avais une manifestation de la vérité si claire, je désirais faire la volonté de Dieu, et j'avais peur de perdre le sens, la vue et le sentiment de ce dont le Seigneur m'avait, dans sa miséricorde, donné la précieuse jouissance, et il lui plut de me faire voir qu'aucun homme ne pouvait m'ôter cela ni nuire à mon âme, si je ne le faisais pas moi-même. C'était précieux pour mon âme, et alors, bien que j'eusse été offensé par le peuple appelé Quakers, je les appelais désormais amis, comme Christ appelait autrefois ceux qui lui obéissaient. Je poursuivis jusqu'au terme de mon voyage, l'esprit occupé de sérieuses réflexions. Mais à mon retour, le monde fut placé devant moi, avec tout ce que j'y possédais, et je vis qu'il me fallait tout abandonner et tout laisser. Et ce n'était pas tout, mais il était probable que j'aille en prison, et que ma femme et mes enfants soient réduits à la pauvreté. Mais je mis ma confiance dans le Seigneur seul, qui suffit à tout, qui est la part de son peuple et le rocher de sa sécurité, à jamais. Amen. Bien que l'ennemi s'acharnât contre moi, je m'appliquai à sentir le Seigneur avec moi, afin qu'il me garde et m'aide encore à demeurer en lui avec lui, et que son nom soit béni et loué à jamais. Il ne m'a pas laissé ni abandonné, bien que parfois il cachât, pour ainsi dire, sa face loin de moi. Et quand je commettais une faute ou l'offensais par manque de vigilance, ou que je laissais mon esprit vagabonder, il n'a pourtant pas gardé sa colère pour toujours, quoique sa parole était comme une épée et comme un marteau, dans le jeu. Ma satisfaction fut grande, et mon cœur se tourna vers le Seigneur, et mon visage même fut si changé que ma femme et mes voisins le remarquèrent et en parlèrent. Mais je gardai mon esprit tourné vers l'intérieur et dis peu de choses, sinon ce qui m'était donné, et je gardai mon exercice pour moi pendant quelque temps, et n'en parlai ni à ma femme ni à personne, car je n'avais pas encore été aux assemblées des amis, et il n'y en avait aucune dans notre région du Pic, où je vivais alors. Je rencontrai quelques amis au marché et m'entretiens avec eux, mais je ne leur dis rien de mon état, et la plus grande partie de la ville fut agitée. Certains parlèrent en bien et m'aimèrent, et d'autres parlèrent en mal et me haïrent sans cause, et ils étaient en désaccord les uns avec les autres, mais après quelque temps, beaucoup furent convaincus et vinrent aux réunions. Le Seigneur m'ayant de nouveau montré son pauvre peuple méprisé, cela me rendit heureux lorsque je trouvai avec qui l'attendre. Après quelque temps j'entendis parler d'une réunion à Exton, chez une veuve Farney, dont le mari avait été un ami honnête. J'y allai et trouvai beaucoup d'amis qui étaient venus de plusieurs milles, et quand j'arrivai, je fus confirmé qu'ils étaient dans cette vérité dont j'avais été convaincu, bien qu'ils fussent entournés en dérision par le monde. Il fut peu parlé dans cette réunion, mais j'y restai assis en silence, incliné en esprit devant le Seigneur, et je le sentis avec moi et avec les amis, et je vis qu'ils avaient l'esprit retiré et attendaient de sentir sa présence et sa puissance agir dans leur cœur, et qu'ils étaient des adorateurs spirituels, qui adoraient Dieu en esprit et en vérité. Je sentis qu'ils éprouvaient et goûtaient la bonté du Seigneur, comme je le faisais alors, et bien que peu de paroles fussent prononcées, j'étais pleinement satisfait de la réunion. Et il s'éleva une douce mélodie, qui traversa l'assemblée, et la présence du Seigneur était au milieu de nous. Et je reçus du Seigneur, dans cette réunion, plus de vrai réconfort, de rafraîchissement et de satisfaction que je n'en avais jamais reçu dans aucune réunion de toute ma vie auparavant, louange au Seigneur à jamais. J'étais assuré qu'il y était son peuple et qu'il y était conduit par son esprit, par lequel il en venait à comprendre sa volonté et était amené selon leur mesure à une véritable obéissance à ses commandements, étant rendu disposé à porter sa croix, à se renier eux-mêmes et à devenir des fous, afin de connaître la vraie sagesse. C'est pour cela qu'il attend en silence, et pour sentir l'inspiration du Tout-Puissant, afin qu'il leur donne l'intelligence des choses de Dieu, que l'homme naturel ne peut comprendre parce qu'il ne vient pas attendre. Je sentis aussi, dans mon cœur, un amour pour eux tel que je n'en avais jamais éprouvé pour aucun peuple. Oh, c'était un amour véritable, un amour que nul ne connaît sinon ceux qui l'ont. Je sentis aussi le même amour en eux pour moi, et quelques-uns me prirent dans leurs bras et se réjouirent de moi, bien que je ne connusse que peu d'entre eux, ni eux de moi. Ainsi je rentrai chez moi, et ma pauvre femme fut profondément affligée que j'aille parmi le peuple appelé Quakers, et les gens de notre ville commencèrent à s'emporter. Certains disputèrent avec moi, certains me maudirent, comme j'entendis, certains plaidèrent pour moi, certains me tournèrent en dérision et se moquèrent de moi, criant après moi, « Quake, Quake ». Quand je les entendis m'appeler ainsi, mon cœur fut dans la joie et rempli d'allégresse d'être outragé pour l'amour du Christ, et je me crus digne de prendre part avec les amis aux souffrances du Christ, qui restent encore à son corps, et cela s'éleva en moi, maintenant j'ai obtenu le nom. Oh, que je sois véritablement amené dans la nature du peuple de Dieu! Mais il y avait plusieurs choses que, pour l'instant, je ne voyais pas clairement, bien que je sentisse le Seigneur avec moi et fût sûr que c'était la vérité. Pourtant, dans le secret de mon esprit, j'avais l'intention de ne pas imiter les Quakers, mais je voudrais ôter mon chapeau devant les hommes et employer le même langage que j'avais employé, car je n'aimais pas leur langage et leur conduite simple envers les gens. Je n'étais pas disposé à entrer dans cette pratique en imitation des amis, pensant que je plairais mieux aux gens si je disais vous à une seule personne et si j'ôtais mon chapeau devant elle, car beaucoup aiment être honorés, bien qu'aucun culte ne soit dû à aucune créature sur la terre. Ainsi je restai caché pendant un temps, peu sachant ce que j'étais, ni ce que j'avais vu, entendu et senti. Pourtant je savais que c'était le Seigneur qui m'avait rencontré sur la route, et c'était avec une telle puissance que je le reçus volontiers pour ma grande satisfaction et mon réconfort, et je crus que le Seigneur, lorsqu'il le jugerait bon, ouvrirait mon intelligence et me donnerait de comprendre les saintes Écritures, ce qu'il a depuis, dans sa miséricorde, merveilleusement fait. Je pris soin de retenir durablement ce qui m'avait été donné gratuitement, et il me vint à l'esprit d'attendre le Seigneur, afin de savoir ce qu'il voudrait que je fasse. Ainsi j'attendis en mon esprit d'entendre ce que le Seigneur, mon Dieu, me dirait. Et après quelque temps, comme je chevauchais sur la route et que j'attendais, la parole du Seigneur s'éleva avec une grande puissance dans mon cœur, disant « Dis la vérité à ton prochain, ne sois pas double de langue, ne fais acception de personne. » Cela me satisfit pleinement, et je vis que je devais entrer dans le royaume des cieux comme un petit enfant, et que je devais réapprendre à parler et à marcher, et que j'avais besoin d'être aidé et soutenu par la main secrète du Dieu Tout-Puissant Omniprésent, et d'avoir égard à lui dans tout ce que je disais, et dans toute ma marche et mes actes. Je vins à voir que cela avait été le langage de Dieu depuis le commencement, et le langage de tous les justes en tous les âges, et qu'aucun prophète, apôtre ou serviteur de Dieu n'avait jamais employé aucun autre langage envers lui, soit dans la prière, dans les louanges, soit dans leurs écrits, en aucun temps. Je vis que Dieu ne change pas, et que lorsque les hommes se tournent véritablement vers lui, ils deviennent de vrais hommes. Mais ce langage et cette conduite étaient durs à la chair et au sang, qui aurait voulu plaire aux hommes et obtenir leur louange, que j'avais obtenu quand j'étais jeune, et il m'était pénible de tout perdre, ce que je savais pourtant devoir faire, bien qu'ils prissent ombrage de moi pour mon obéissance au Seigneur. Ainsi je me rendis, dans l'obéissance à la volonté de Dieu, en quoi je trouvai la vie et la paix pour mon âme, et un grand encouragement et une grande joie dans le Seigneur, bien que cette manière de parler et de se comporter me fût très pénible, et fut une grande croix pour ma nature, et aida à m'abaisser beaucoup, et à mortifier le vieil homme en moi, et me rendit disposé à passer pour un fou aux yeux du monde et à être méprisé des hommes. Maintenant, béni et loué à jamais soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a réjoui mon âme et satisfait les aspirations de mon esprit, il m'a ouvert les mystères de son royaume, m'a donné une mesure de sa grâce, et a fait se lever sa lumière en moi, et les ténèbres se sont enfuies. Il m'a donné le vrai pain de vie et a réjoui mon cœur avec le vin de son royaume. Il est devenu lui-même mon maître, et m'a rassemblé dans sa puissance, et m'a couvert de la bannière de son amour. Il est devenu mon refuge, mon rocher, ma force et mon asile. Je n'ai pas besoin de craindre ce que l'homme peut me faire. Il est ma part, je ne manquerai de rien, et c'est pourquoi je me confie en lui seul, mon aide au temps du besoin. Il a opéré toutes mes œuvres en moi et pour moi, tant le vouloir que le faire selon son bon plaisir. Il est une récompense suffisante pour tous ceux qui l'attendent. Il est tout en tout, je n'ai nul autre que lui, il suffit à tout, je ne suis rien d'autre que ce que je suis en lui, c'est pourquoi lui seul doit être loué. La gloire lui est entièrement due, car c'est lui seul qui a racheté mon âme de la mort et m'a ouvert la voie de la vie. Il a ôté les fers de mes jambes et a posé mes pieds sur un fondement sûr. Il m'a fait sortir de la maison de prison et a placé mon âme dans un lieu agréable. Il m'a arraché comme un tison du feu et m'a donné de la force au-dessus de mes ennemis. Il a racheté mon âme de la mort et m'a fait marcher dans le sentier de la vie. Il a entendu mes soupirs, et mes gémissements ne lui étaient pas inconnus, il a pris en considération les aspirations de mon âme, et a changé ma tristesse en joie, oui, il a attendu tendrement pour me faire grâce, et sa longanimité m'a conduit à la repentance. Que rendrai-je au Seigneur, mon Sauveur, qui a agi si généreusement envers moi, mon âme, bénis le Seigneur à jamais, et que tout ce qui est en moi loue son saint nom, car il a fait que la miséricorde m'environne. Ô la bonté du Seigneur, vous tous qui le connaissez, louez son nom, car ses miséricordes demeurent à jamais. Il a fait briller la lumière hors des ténèbres, et a manifesté par là les choses qui sont reprises. Vers cette lumière mon cœur est tourné, résolu à me détourner de mes iniquités, et à servir le Seigneur avec révérence et sainte crainte. Maintenant je sais que c'est lui, par sa parole, qui m'a montré mes pensées et l'intention de mon cœur, bien que j'en fusse autrefois ignorant, je suis pourtant maintenant assuré que c'était sa parole, qui souvent m'appelait derrière moi, disant « Voici le chemin, marche Y ». Il cherchait toujours à me sauver de la puissance de l'ennemi, quoiqu'alors je ne le considérais pas. Néanmoins, il m'a poursuivi jusqu'à ce qu'enfin mon cœur s'ouvrit pour le recevoir, lui qui est maintenant mon bien-aimé, et qui m'a donné de goûter que Dieu est bon, dont la bonté dépasse de beaucoup tout ce que ce monde peut offrir, loué soit le nom du Seigneur. J'ai trouvé la perle de grand prix, la seule chose nécessaire à mon âme de connaître, et c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, le vrai chemin vers le Père, qui a promis d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. C'est lui que nous devons écouter et auquel nous devons obéir en toutes choses, de peur que nous ne soyons retranchés du milieu de son peuple. C'est l'onction que j'ai reçue du Seigneur, qui enseigne toutes choses, qui est vérité et n'est point mensonge. Oh ! Si les enfants des hommes ouvraient leur cœur, afin que le roi de gloire y entrât, pour chasser cette caverne de voleurs, qui les dépouille de ce trésor et de cette paix qui surpasse leur intelligence, par cela ils viendraient à faire l'expérience du Consolateur, l'Esprit de vérité, pour les conduire dans toute la vérité, car c'est lui qui opère toutes nos œuvres en nous et pour nous. C'est l'œuvre du Seigneur, et elle est merveilleuse à nos yeux, à lui soit louange et gloire à jamais. Mon entendement ayant été ainsi ouvert, je vins apercevoir clairement la parole de Dieu dans mon cœur, qui avait agi puissamment jusqu'à ma pleine conviction, et par elle je sus que je devais être fidèle à ce qu'elle exigeait, si je voulais avoir la paix, elle me donnant une vraie vue de mon état et de la manière dont je devais attendre le salut. Alors je vis, à ma grande satisfaction, ce qui fit naître la joie, que les Quakers méprisés étaient le peuple qui adorait Dieu de la manière qu'il exige, en esprit et en vérité. Le dimanche suivant, j'allai à une réunion à Watlock, où les dénonciateurs et les officiers avaient fait de très tristes ravages en emportant les biens des amis. Pourtant beaucoup d'autres, aussi bien que les amis, vinrent à la réunion. Dès que j'arrivai à portée de vue de la maison, je sentis le Seigneur avec moi, j'entrai, et il y avait beaucoup de monde, et après quelque temps je fus poussé à déclarer le témoignage de la vérité, et la présence de Dieu se manifesta si glorieusement que le peuple prêta une bonne attention, et en fut si touché que la crainte des hommes fut grandement ôtée. Étant venu à voir, dans la lumière du Seigneur, toute chose à ma satisfaction, j'allais joyeusement aux réunions des amis, et j'étais édifié et consolé. La troisième réunion où je fus, la puissance du Seigneur vint sur moi, et je fus pressé en esprit de déclarer sa bonté, mais il m'était difficile de m'y rendre, pourtant je n'osais pas désobéir, ainsi je me levai et parlai à l'assemblée une grande multitude d'amis et d'autres étant réunis, de ce qui m'était donné de comprendre concernant la création de l'homme, sa domination, son œuvre, son état d'innocence, sa chute et sa restauration par la semence promise, Christ Jésus le Sauveur du genre humain, tout cela pour l'agre. Le journal, de John Gratton. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.